j'en crois la définition proposée sur Wikipédia, l'identité numérique peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle et des entités virtuelles. L'évolution incessante des technologies de la communication ainsi que leur multiplication amplifient le caractère problématique de ce rapport. Nous autres, qui autour de ce micro militons pour un enseignement du français adossé à des pratiques raisonnées du numérique, nous nous sentons directement interpellés par cette problématique rapprochant l'identité réelle et l'identité virtuelle. Pour nous, il ne s'agit pas d'une simple interrogation théorique, car nous avons la responsabilité des élèves qui sont dans nos classes. Et nous savons les ravages que peuvent occasionner certaines idées confuses entrées dans l'esprit de ces adolescents. C'est pourquoi, avec Philippe Godiveau, nous allons tenter de clarifier les choses dans la rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ». Mais Philippe, avant d'entamer notre réflexion sur les liens complexes entre identité réelle et identité virtuelle, il me vient à l'esprit une question plus restreinte, plus restrictive. De quelle manière rattacher le thème de l'identité à notre champ disciplinaire ?
En fait, c'est très simple, mon cher Serge. Il suffit pour cela d'interroger les œuvres ou l'histoire littéraire. En ne nous référant qu'au seul XIXe siècle, Jean Valjean, Edmond Dantès, Ferragut, le colonel Chabert, le docteur Jekyll pose le problème de l'identité. Et que dire de Stendhal, George Sand et d'autres auteurs pour lesquels les pseudonymes furent un élément définitoire de leur identité.
Certes, mais nous sommes là face à des êtres de papier ou à des artistes. Cette dimension plurielle de l'identité est-elle vraiment valable pour chacun d'entre nous en ce début du XXIe siècle ?
Plus que jamais, notre identité se décline au pluriel et pour être précis, en trois parties. La plus évidente est l'identité personnelle, qui se fonde sur nos noms, prénoms, dates et lieux de naissance. C'est elle qui nous confère d'ailleurs une existence juridique. La deuxième est l'identité sociale, qui nous place dans un rapport à autrui pour définir les statuts, reprenons ici un lexique numérique, statuts que nous partageons avec autrui, sexe, âge, métier, centre d'intérêt. Cette identité peut d'ailleurs constituer une porte d'entrée pour un travail d'argumentation autour des réseaux sociaux, leur rôle, leur impact sur notre vie. Enfin, il nous reste l'identité culturelle, qui se manifeste par l'adhésion d'un individu aux normes et aux valeurs d'une culture définissant sa personnalité. Voilà à nouveau un élément de taille pour faire réfléchir aussi bien nos collégiens que nos lycéens.
N'oublions pas qu'à cette période de la vie, il faut avant tout exister aux yeux des autres.
Ah, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs sur cela que jouent Facebook, Twitter, Pinterest et tant d'autres services sans que les jeunes utilisateurs en aient vraiment conscience. J'invite donc nos auditeurs à s'emparer en classe de 5e du thème « Vivre avec autrui, famille, amis, réseau » pour mener une réflexion de fond. Mais attention, dans ce cas, il faut fourbir nos arguments et préparer le travail en amont, car les élèves n'apprécient pas toujours que l'on veuille analyser leurs pratiques et leur sphère privée, notamment les lycéens. Nous pouvons alors faire appel aux travaux de Dominique Cardon, qui est professeur associé à l'Université de Marne-la-Vallée et qui a catégorisé et décrit les différentes manières de se comporter sur le web en en dressant une cartographie. D'ailleurs, vous trouverez les références d'une infographie très facile à utiliser dans notre document d'accompagnement.
Effectivement, cela pourra nous aider à mieux cerner les problèmes, mais peut-être aussi l'ennemi.
Ah, élémentaire, mon cher Serge. On le connaît, cet ennemi, sous l'acronyme GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Ainsi, en classe de 4e, le thème « Individu et société, confrontation de valeurs » offre l'opportunité de poser une question à nos élèves. Pourquoi ces sociétés, à but lucratif, nous proposent-elles des services gratuits ? Amour de son prochain ? Philanthropie sans bornes ? Non, il faut faire comprendre dans nos classes que le but est de récolter de l'homo numericus ces données, ces data, pour reprendre un terme plus à la mode. Pour cela, de puissants algorithmes analysent nos clics, nos choix et calculent ce que l'on appelle notre identité agissante. Prouvons-le alors aux élèves, utilisons le logiciel gratuit CookieWiz qui, sous forme de carte, leur montrera toutes les traces qu'ils laissent sur le web de manière inconsciente. Ou encore le site YouSeeMe qui leur permettra de dresser leur carte d'identité numérique. Vous pouvez également utiliser, chers auditeurs, le dernier numéro du magazine 01 Net, où dans un entretien, Dominique Cardon relève l'illusion donnée par ces algorithmes d'un choix pour l'utilisateur, alors qu'il n'en est rien. Voire, pire, il limite notre champ d'investigation et notre horizon culturel.
Cela fait déjà beaucoup de possibilités, Philippe, mais n'as-tu pas d'autres outils qui pourraient alimenter le cours en lycée ou en collège ?
Je mentionnerai deux sérieuses games. Tout d'abord, 2025 Ex Machina, que nous avons déjà vanté à ce micro, notamment, rappelons-le, pour les ressources pédagogiques qu'il propose à l'enseignant. Et pour les plus jeunes, au collège, AmiClick, un serious game créé dans notre académie et dont Karine nous parlera dans quelques instants.
Si mon compte est bon, tu viens donc d'aborder quatre identités pour un même individu. Est-ce à dire que, selon la formule célèbre, « je est un autre » ?
Effectivement. Le mot de Rimbaud est plus que jamais valable. Cette fois, à travers la dépendance qu'entretiennent certains des outils numériques, mais également par une autre notion, celle de flux. Ce terme me semble à étudier avec nos élèves dans ce qu'il nous apprend de notre positionnement par rapport à l'information, la rumeur, les médias, pour leur montrer que la pensée a besoin de vacuoles de réflexion, comme le demande Yves Citon dans un article intitulé « Métamorphose du cerveau, lecteur en esprit d'interprétation ». Un temps en quelque sorte suspendu, ne serait-ce pas celui de l'école, où la réflexion se forme. Analyser le flot incessant de tweets, de vidéos sur YouTube, pour finalement s'en rendre maître.
Comment cela ?
Je fais ici référence à une expérience que j'ai vue au salon Educatech en mars 2016, où des lycéens de seconde à la terminale étaient incités à construire sur le net leur CV sous la forme d'un e-portfolio. Ce CV reprenait les productions qu'ils avaient pu réaliser durant 3 ans et les poussait surtout à se demander quelle image, quelle identité ils souhaitaient se forger. Dr Jekyll ou Mr Hyde, l'identité est plus que jamais au cœur des préoccupations et nous devons accompagner nos élèves dans cette réflexion pour que finalement le meilleur d'eux ressorte dans l'univers numérique.